Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Trouve en deuxième partie de l'émission avec Denis Ferrand, avec Stéphanie Mauger, avec Louis de Montalembert et Christopher Demby qui en parle tout de suite des marchés. Bon, la fin de la semaine, un peu on n'a pas l'habitude. Chaque semaine, j'avais à peu près le même texte, j'ai été obligé de le changer. Chaque semaine, je disais, est-ce que c'est boule ou une bulle? Le marché continue à monter. Bon, il a baissé un peu, on va essayer de comprendre pourquoi. Reste quand même des performances sur l'année. Je vous rappelle qu'on a fait un des meilleurs démarrages d'année. Performance sur l'année, CAC, S&P 500, Nasdaq, et je vous fais un prix global autour de 8%, l'Eurostock 12%, Nikkei 18%, même Shanghai a rebondi et a passé positif. On a eu un petit coup de mou en fin de semaine, mes explications, mais qui ne sont pas raffinées, ces tensions géographiques, hausse des taux des matières premières. 3 des 7 Magnificent ne brillent plus. Tesla surtout qui chute lourdement depuis le début de l'année. On ne parle plus maintenant que des Fab Four, Amazon, Meta, Nvidia ou Microsoft. Puis la semaine prochaine, on va nous sortir les Big Three ou je ne sais pas quoi. Mais la performance, bon, remarquable au premier trimestre. Petit coup de mou en fin de semaine. Louis de Montalembert, vous dites on est mûr pour une correction, ou vous dites je m'en fous, moi je regarde que mes valeurs, ça ne m'intéresse pas de regarder le marché.
La deuxième réponse est tentante, mais je vais quand même apporter une petite explication. D'abord, je pense que on regarde les grands indices. Alors, on a une image qui est un peu distordue de la réalité des marchés. Et en fait, il y a beaucoup de poches qui ne suivent pas du tout la hausse qu'on voit sur les marchés dont on parle. Donc, on peut pas véritablement parler d'un marché haussier extrêmement important. Alors, pour parler du secteur
moi, je vais
qui m'intéresse,
Louis de
les logiciels, c'est du zéro depuis le début de l'année.
Je vais citer Louis de Montalembert qui dit « Il faut arrêter de dire que la hausse est sur quelques valeurs. En fait, elle est beaucoup plus large que
alors,
prévu.
En 2023,
il y a plus de 50 valeurs. »
Je vais répondre à Marc Fiorentino. Ça, j'ai expliqué ça en 2023. En 2023, effectivement, il y a 169 valeurs du S&P 500 qui ont fait plus de 20% de performance.
Oui, je vous écoute.
Ce que je dis, c'est bien, vous avez raison, vous allez devenir plus intelligent. Ce que je dis, c'est depuis le début de l'année, c'est pas nécessairement qu'elle est concentrée, c'est qu'elle peut, En fait, il y a beaucoup de bouts de l'économie qui n'y participent pas. Enfin, on parle des small cap et des mid cap depuis un moment en disant ça y est, c'est le moment, etc. Moi, je suis persuadé que c'est le moment et en tout cas, c'est là où on trouve de la très bonne valeur. Ça n'a absolument pas participé. Dans la tech, c'est pareil. La tech, c'est très concentré dans les semi-conducteurs. Mais tout le reste de la tech est au tapis. En fait, on est même en négatif sur toutes les valeurs du soft aux États-Unis.
De façon globale, est-ce que vous diriez que les marchés sont mûrs pour une correction ou pas?
Non, pas particulièrement, sauf s'il y a un risque qui émerge. Là, en fait, il y a un peu une correction parce que, à nouveau, on se crée des petites angoisses sur la politique monétaire. Il s'était passé exactement la même chose au même moment l'année dernière, au moment du trimestre. Donc, je pense que c'est transitoire.
À vos clients privés, vous leur dites quoi? Prudence un peu ou pas spécialement? Non, on y va,
sûr,
on continue.
On écrête un peu les lignes qui ont très bien performé, les Schneider, les ASML, les Adyen, enfin c'est très belle européenne aussi. Néanmoins, moi je pense qu'on voit depuis le début de l'année, on a un Eurostock 50 qui fait une meilleure performance que les indices de S&P 500. Il était en retard, certes, mais néanmoins, on a, malgré, je vous ai écouté, mais on a quand même sur l'Europe pas que des mauvaises nouvelles, on a quand même des PMI composites qui rebondissent juste récemment, on a aussi des bonnes publications et on voit que les marchés sur certaines nouvelles spécifiques vont permettre à des valeurs très décotées de rebondir. On voit un Ruby qui était très belle valeur, belle rentabilité, 5 de PE, qui fait l'objet tout d'un coup d'une attention d'un Bolloré, qui prend 5% du capital et boum, 5% de plus d'une autre famille Molis, et ça redémarre et on passe de 23 à 35 35 euros. Et des valeurs comme ça, il y en a plein. La Vallourec avec ArcelorMittal qui rentre au capital. Et on voit que tout d'un coup, c'est le catalyseur qui met en lumière une sous-valorisation de toutes ces valeurs et d'un secteur des small caps qui a été ultra déprimé depuis 3, 4, 5 ans pour certaines valeurs. Et on va à un moment, on ne peut plus avoir autant de différence entre les valorisations payées par un private equity qui paye parfois 10, 12 fois les EBITDA quand sur les marchés boursiers, vous avez plutôt des valeurs autour de 5 fois. Donc c'est historique.
Donc vous, vous êtes plutôt confiante. Donc,
moi, je pense qu'on a aujourd'hui, effectivement, ça respire et on a malgré tout des bonnes publications. Vous avez eu la Trigano, vous avez eu des Vusion, vous avez eu des Bilindi, des sociétés plus petites, parce que c'est celles-ci qui publient seulement maintenant, qui publient des très bons résultats, qui ont des bilans solides, qui ont du cash. Donc celles-ci, elles sont armées et elles vont peut-être enfin pouvoir aller faire des acquisitions et glaner de la croissance parce que le private equity a moins les moyens et donc toutes ces valos qui étaient devenues trop chères pour leur amener leur croissance sont aujourd'hui peut-être, vont leur permettre d'accélérer.
Vous partagez ce point de vue ?
Sur l'optimisme ?
Christopher,
oui. Oui, oui. Enfin, il faudra bien sûr que le marché respire. Et oui. Comme tu le disais, il faudra se créer finalement une angoisse.
Ah, si tout le monde cite Louis de Montalembert, il va...
C'est la journée.
Déjà qu'il se cite lui-même. Si vous le citez, Denis l'a cité, vous le citez, lui se cite. Il reste que si Stéphanie, on est bon là.
Mais c'est créer une angoisse, effectivement, je pense que c'est la bonne terminologie parce que finalement, les marchés ont besoin de se faire un peu peur. Mais fondamentalement, on est quand même sur des marchés qui sont en situation oligopolistique. C'est que vous avez... Ça a été bien dit, c'est finalement cette bribe des semi-conducteurs avec derrière cela, bien sûr, Nvidia qui essaye de créer une chaîne de valeur sur l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, Nvidia le fait de manière assez intelligente. Ils sont à la fois sur les liens et tout ce qui est circuit au début. Et ils ont fait ça depuis à peu près 5 ans. Ils sont bien sûr sur les puces. Ils sont en train d'essayer d'acheter des plateformes d'intelligence artificielle qui s'adresseraient aux PME parce que c'est la prochaine étape de l'intelligence artificielle. C'est bien sûr le cloud, ça coûte cher. L'intelligence artificielle aussi, ça peut s'adresser aux grandes entreprises, mais il faut que tout le monde puisse le faire. Et donc, la prochaine étape, et je pense qu'Nvidia a une sorte d'entreprise systémique sur le marché aujourd'hui, parce que fondamentalement, ils essayent de faire ce qu'a fait Microsoft au début des années 2000 avec Windows, c'est-à-dire on démocratise l'informatique. Aujourd'hui, c'est démocratiser l'intelligence artificielle, ce qui fait que vous avez une assise de marché, une domination d'NVIDIA qui est bien sûr pas saine, mais qui est liée à la révolution en cours, avec bien sûr derrière cela quelques entreprises liées à ce secteur qui vont en bénéficier. Mais ça fait que derrière cela, de manière ultime, vous avez une appréciation qui est très concentrée du marché et tout le reste du marché, même s'il y a des belles entreprises, des belles opérations, fondamentalement, ça reste concentré autour de cette thématique
semi-conducteur. Mais cette hyper-concentration, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est pas simplement le fait des algorithmes, de la gestion.
Ça contribue.
Ça contribue, mais vous dites qu'il y a une réalité économique derrière cette hyper-concentration.
Exactement.
Parce que les gagnants raflamissent, c'est ça ?
C'est ça. Vous êtes vraiment dans ce schéma-là et aujourd'hui, et notamment, vous savez, ceux qui se disent, oui, mais les marchés vont chuter, ils mettent en avant Cisco, la courbe de Cisco et de Nvidia, parce que Cisco dans les années 90, effectivement, a eu de nouveaux concurrents qui sont arrivés. Mais justement, Nvidia, où il y a de l'intelligence, et qu'ils se disent on ne peut pas être que sur les puces, qui est notre cœur de métier, on va créer la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Ils ont l'argent, ils ont la technologie, les hommes, les femmes pour le faire. Donc, bien sûr, ça crée derrière cela d'autres sociétés qui ne sont pas en mesure de suivre, parce que ça coûte cher l'intelligence artificielle. Je sais bien que tout le monde en parle, mais une entreprise qui veut investir dans ce domaine-là, il faut qu'elle investisse beaucoup, et ça coûte beaucoup d'argent et de temps, et mobiliser les équipes. Et donc, vous avez finalement cette situation qui est complètement normal dans une phase de révolution industrielle. Pour moi, le risque aujourd'hui, sur du long terme, je voudrais dire, il y aura de la respiration du marché. Le risque, c'est si demain on a aux États-Unis une vraie loi antitrust qui s'adresse à ces entreprises-là, comme on a pu le voir par le passé. Avec
je ne crois pas une seconde.
Et moi non plus. Si vous regardez,
parce qu'on est en guerre avec la Chine et donc ils vont pas décimer leur propre bataillon.
Vous faites pas harakiri dans cette période-là. Donc c'est complètement logique, ce qui veut dire que cette situation, elle va perdurer de mon point de vue, et notamment cette situation oligopolistique sur le marché. Quelques gagnants qui raflent la mise.
Denis Ferrand, vous avez une opinion sur la bourse ou...
J'ai pas une opinion qui sera aussi aiguisée que celle que vous pouvez avoir, vous tous sur le plateau, vous compris, bien entendu, Marc. Il faut quand même bien vous citer un petit
peu. Il essaye de.
Je branche. Moi, je vais aller regarder d'un point de vue macro, avec effectivement, de toute façon, ce qui se passe aussi sur les taux d'intérêt, avec ces messages qui sont un petit peu plus alambiqués autour des taux d'intérêt, notamment qui ont été exprimés sur les États-Unis. On voit bien qu'il y a quand même quelques poches d'inflation qui résistent. Le dernier kilomètre semble être long et il y a quand même aussi un petit retour macro qui est en toile de fond de ce qui se passe sur la bourse probablement.
Est-ce qu'on peut dire, juste puisque vous parlez des taux d'intérêt, c'est très intéressant, est-ce qu'on va vers une pontification de la courbe, c'est-à-dire, j'explique pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire une baisse des taux courts par les banques centrales, ça c'est décidé par les banques centrales, et puis des taux plutôt long terme, 10 ans et plus, qui reste à des niveaux relativement élevés du fait du niveau d'endettement général?
Déjà, avant de parler de pontification, il faudra déjà sortir de la situation d'inversion. C'est déjà, là, on est dans une situation, en particulier aux États-Unis, où l'écart entre les rémunérations sur les échéances courtes et sur les échéances longues, eh bien, cet écart, il est positif. C'est beaucoup plus rémunérateur à court terme qu'à long terme. Donc, il y a déjà, dans un premier temps, à faire l'inversion. Mais c'est vrai que, logiquement, à un moment, il y a la prime de terme qui doit revenir. Et on n'y est pas encore.
Et ça sera plutôt favorable
Oui, je pense qu'on a aujourd'hui des milliards en monétaire, hein, parce que les gens ont été très opportunistes, ils ont vu ces taux hauts et plutôt effectivement à court terme. Vous avez aujourd'hui à 3 mois 4%, quand sur un an c'est plutôt autour de 3,60. Donc il y a déjà rien que sur très courte période des gros écarts. Donc je pense qu'on a là une réserve de performance et de soutien des marchés avec une baisse des taux à venir qui permettra un arbitrage du coup de ce monétaire vers des classes d'actifs.
Tout ce pognon va encore engraisser les rentiers.